Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info. Voici ce qui a attiré notre attention cette semaine sur les territoires. C'était au tour des résidents de Hay River à manifester leur appui au mouvement Black Lives Matter le samedi 4 juillet. J'en discute avec ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade. Le ministère de l'Éducation des TNO pourrait s'inspirer du modèle Yukonais pour les admissions dans les écoles francophones. Mon collègue Baptiste Foisy en a discuté avec le ministre R.J. Simpson. Le vote en ligne, tel que pratiqué aux élections territoriales de 2019, est-il vraiment sécuritaire? Un expert a donné son avis et ses recommandations la semaine dernière à un comité de députés des TNO. Le GTNO levait cette semaine l'état d'urgence territorial qui était en vigueur depuis mars. La première ministre Caroline Cochrane préserve tout de même le portefeuille du ministère des Affaires municipales et communautaires. Face à des enjeux d'approvisionnement pour assurer les capacités de dépistage de COVID-19 sur le territoire, le Nunavut accueille un nouveau système qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel relâchement des restrictions aux frontières. 5 associations représentant les principaux employeurs du secteur privé des TNO publiaient une lettre le 25 juin pour réclamer au GTNO de prendre action afin d'assurer la reprise économique du territoire. J'en ai discuté avec le directeur général du Conseil de développement économique des TNO, François Afan. L'association Hockey TNO rencontre la semaine prochaine l'administratrice en chef de la santé publique des TNO pour discuter d'un possible retour sur la glace des ligues de hockey du territoire à partir de cet automne. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, organisait cette semaine une discussion en plein air avec les résidents francophones de la municipalité. Après Yellowknife, Inuvik et Fort Smith, c'était au tour de Hay River de manifester son appui au mouvement Black Lives Matter le 4 juillet, samedi 4 juillet dernier, un événement d'envergure qui se voulait en fait le début d'un mouvement encore plus large contre le racisme systémique sur le territoire. Cécile-Antoine Maisonnade en a discuté avec l'une des organisatrices de la manifestation. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Cécile, donc de prime abord, on se réjouit du succès de cette initiative de samedi dernier.
Oui, tout à fait, parce que selon leur décompte, il y avait à peu près une centaine de personnes qui se sont réunies ce jour-là. Alors, juste pour rappel, la recrudescence de ces mobilisations internationales a débuté après la mort de George Floyd à Minneapolis. Donc c'était un homme noir qui a été tué par un policier suite à une interpellation. Mais le mouvement, il remonte encore plus loin, il remonte à 2013, au décès du jeune Afro-Américain Trayvon Martin, qui avait été abattu par un garde de sécurité. Et c'est à ce moment-là que le mot-clic Black Lives Matter a commencé à se propager. Et donc c'est en 2020, autour de Hay River, donc de faire une marche contre les racismes. On écoute Daniela Borunga.
There really hasn't been anything like this ever for racism, and even like rallies of any sort, there hasn't really been anything going on in the last couple of years. So yeah, so it was really good to see all of our community out.
Daniela Borunga, donc organisatrice de cette marche en appui au mouvement Black Lives Matter à Hay River, qui explique que c'était en fait la première manifestation d'envergure contre le racisme qui se déroulait dans la municipalité, là, dans cette collectivité. On sent vraiment qu'on a apprécié là, cette mobilisation importante là, de la communauté de Hay River. Cécile, on a aussi accordé une attention particulière aux réalités vécues dans la région du Slave Sud.
Oui, outre l'appui aux communautés noires, les organisatrices ont vraiment éprouvé l'obligation de préciser que la marche intégrait également les autochtones et toutes les autres ethnies discriminées.
There's so much racism that goes on for indigenous people. So and I feel like that's not really talked about as much. So we thought it was extremely important to also make that a point. We've got like a couple reserves here in Hay River. So yeah, we wanted to stand with our people.
Donc, il y a eu cette manifestation-là à Hay River. Les organisatrices ont également lancé une pétition demandant à la Commission des droits humains des TNO d'organiser un sommet à Hay River pour lutter contre le racisme systémique.
Alors l'idée de ce sommet, c'est d'appeler tous les députés de l'Assemblée législative des TNO, les conseillers municipaux et les leaders de différents secteurs, justice, santé, éducation, à intervenir contre les racismes. Alors différentes actions leur sont proposées, telles que collaborer à la création de services antiracistes, antidiscriminatoires et antioppressifs. Les organismes cités sont également invités à reconnaître leurs lacunes qui perpétuent les inégalités et à éradiquer les obstacles qui nuisent aux personnes noires, autochtones et aux diverses ethnies discriminées. La pétition a été lancée sur le site change.org et à cette heure, il y avait 200 signataires.
Donc 200 signataires pour l'instant, si vous voulez aller consulter ou signer la pétition donc sur le site web change.org. Cécile Antoine Maisonnade, merci beaucoup.
Merci Thomas.
On en parlait la semaine dernière, le gouvernement des TNO a abrogé sa controversée directive ministérielle sur les inscriptions au programme d'éducation en français langue première. Cette semaine, mon collègue Baptiste Foisy s'est entretenu avec le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
On en sait davantage sur les intentions du ministère avec l'abrogation de cette directive?
Bien, tout à fait. Ce que nous m'a raconté un peu le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson, c'était que lui, derrière cette abrogation-là, ce qu'il voulait d'abord et avant tout, c'était que cesse ce qu'on appelle la discrétion ministérielle. On va aller écouter le ministre.
As the minister, I don't really want the final say either. I don't think that these things should have to come across the minister's desk, you know, where a child is going to attend school. And so that's part of the reason that we're looking at putting what is now a directive into regulations. So there's no more ministerial discretion.
Le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson, qui nous dit ici qu'il ne souhaite pas avoir le dernier mot. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que en vertu de la directive qui a été abrogée, la prérogative de décider ou de donner l'aval final sur les admissions ou les refus d'admission échouait sur le bureau du ministre. R.J. Simpson dit qu'il pense que ça ne devrait pas être de son ressort tout cela et que c'est pas au ministre de décider qui va à l'école et à quelle école.
Et le règlement en soi, en quoi ça consiste?
Bon, et évidemment, il y a des on est en pleine consultation. On saura de quoi a l'air le règlement quand il sera publié. Mais ce que, dans les grandes lignes, R.J. Simpson semble rejoindre les préoccupations de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest. La Commission scolaire francophone nous avait dit, nous, ce que ça nous prend, c'est une catégorie pour admettre des francophiles, c'est-à-dire des francophones ou des non-francophones qui ont un intérêt défini pour la culture française et qui parlent le français. Là-dessus, R.J. Simpson rejoint la CSFTNO. On va aller l'écouter.
We've suggested a francophile category, and through consultation we have over the coming weeks, we'll figure out exactly what that looks for.
Je pense que c'est clair. Il a dit on va créer une catégorie de francophiles, mais il ajoute là-dessus que la définition d'un francophile restera à définir. On peut s'attendre à ce que la CSFTNO ait une vision un peu plus inclusive de ce qu'est un francophile par rapport au GTNO qui nous a habitués dans le passé à interpréter de façon plus restrictive les critères d'admission. L'autre point où le ministre semble également rejoindre la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, c'est sur ce mot final, puisque le ministre ne le veut plus, qu'il aurait... on parle beaucoup du modèle du Yukon, où ces mêmes questions-là se sont posées il y a quelques années au Yukon. On est arrivé avec un compromis. J'ai demandé au ministre si le compromis du Yukon était quelque chose qu'ils envisageaient. On va l'écouter sa réponse.
Oh, absolutely. It's been a few years that people have been talking about the Yukon model. And, you know, in many respects, we're quite similar. And I think that what we end up with might be, I won't say a better model, but maybe even better for the Northwest Territories. But yes, we're absolutely looking at the Yukon model.
Bon, le ministre R.J. Simpson, le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, qui se dit donc en faveur d'un modèle qui ressemblerait à celui du Yukon.
Ce modèle Yukonais en question, en quoi ça consiste?
Le modèle Yukonais, c'est en place depuis 2007. Au Yukon, donc, les admissions sont la prérogative de la Commission scolaire francophone du Yukon, qui, elle, doit s'en tenir à une série de critères qui sont établis par le ministère. Alors, c'est vraiment à vers quelque chose comme ça qu'on, qu'on se dirige censément au territoire du Nord-Ouest. Dans le cas du Yukon, on a fixé un seuil de 5 % d'élèves non ayant droit là, qu'on ne pourrait pas dépasser au sein de la population scolaire. Et finalement, la décision d'admission est prise par un comité qui est formé de la direction générale de la commission scolaire, des directions d'école du Yukon, ainsi que d'un membre du personnel enseignant. Pas de représentation du ministère, mais le comité, par contre, doit faire rapport au ministère qui s'assure qu'on a suivi les critères qu'ils avaient établis.
Et pour en arriver là, ce serait quoi les prochaines étapes?
Bon, là, on est en consultation. Ça, des consultations qui iront bien vite, semble-t-il, puisque R.J. Simpson espère que le nouveau règlement sera prêt pour la mi-août. Alors, on voit que c'est un horizon très court là, pour un processus aussi complexe que celui-là. On semble vouloir faire des rétroactions avec les conseils scolaires, particulièrement le conseil scolaire francophone, mais puisqu'on change la réglementation, tous les conseils scolaires des territoires du Nord-Ouest devront être consultés. On s'entend que c'est la commission scolaire francophone qui a le plus d'intérêt dans ces négociations-là, si je puis dire. Il y aura également possibilité pour les parents de faire valoir leur opinion. Il y a un sondage qui est en ligne. Il est en ligne présentement, ce sondage. Vous pouvez le trouver sur la page du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des territoires du Nord-Ouest. Et il faut faire vite pour répondre. Le sondage ferme le 13 juillet, ça c'est lundi.
Baptiste Foisy de l'émission Bonjour là, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous en prie, Thomas.
Un expert en cybersécurité recommande à l'Assemblée législative de ne pas inclure de dispositions sur le vote en ligne dans sa loi sur les élections et les référendums, du moins pas avant que des normes sécuritaires aient été établies. Cet expert, c'est le Dr Alexander Essex, professeur associé en ingénierie de logiciels de l'Université Western d'Ontario, qui appréhende que de futures élections qui inclurait le mode de scrutin en ligne ne soit discrédité en raison de l'opacité entourant le processus de vote. Le Dr Essex émettait ses commentaires le 30 juin en qualité d'expert reçu par le Comité permanent sur les règles et procédures des TNO. Le Dr Alexander Essex explique qu'il faut comprendre qu'on n'a pas besoin d'un pirate informatique pour discréditer une élection. Il suffit en fait d'un candidat déclaré perdant qui remet le résultat en doute, qui ne peut obtenir de preuves suffisantes que le tout a été mené en bonne et due forme et qui remet donc l'ensemble du système en question. Au chapitre du vote en ligne, l'expert ne fait actuellement état d'aucun cas de fraude majeure d'élection. Par contre, vu la nouveauté de ce type de scrutin, les administrateurs d'élections n'auraient qu'une vision limitée des écueils qui pourraient miner de futures élections. Le Dr Essex souligne notamment les enjeux liés à l'utilisation des données transmises par les électeurs, à l'enregistrement des électeurs avant le vote, ou encore à la crédibilité des résultats aux yeux des candidats. Par exemple, un recomptage aussi rigoureux que le permettent les bulletins de vote papier ne serait actuellement pas possible avec les bulletins de vote électroniques. Selon le Dr Essex, le recomptage se ferait essentiellement de la même manière que le dépouillement initial. Donc, un tel recomptage ne permettrait pas de confirmer ou d'infirmer le résultat d'un vote hors de tout doute.
The short answer to your point is that no, you can't really do a meaningful recount in an online vote.
Thanks, Dr. Essex. I won my election by 11 votes, and there was a recount, so...
On entendait ici le Dr Alexander Essex qui affirme qu'en réponse courte, non, il n'est pas possible d'effectuer de recomptage dans le cadre d'un vote électronique, du moins pas à l'heure actuelle. Et on entendait également le député de Frame Lake et président du comité, Kevin O'Reilly, qui soulignait qu'il a lui-même été élu aux dernières élections avec une avance de 11 voix et que c'est un résultat serré qui a fait l'objet d'un dépouillement judiciaire, donc d'un recomptage. À l'heure actuelle, la sécurité des systèmes de vote électronique est vérifiée par ce que l'on appelle des tests d'intrusion. C'est une sorte de piratage volontaire des systèmes qui vise à en détecter les failles. Mais comme l'explique le Dr Essex, pour assurer l'entière sécurité d'élections, ces tests ne suffisent pas. En fait, les tests d'intrusion effectués jusqu'à présent pour mettre à l'épreuve les systèmes de vote en ligne seraient similaires à ceux effectués pour les sites de transactions bancaires ou les sites d'achat en ligne. Comme l'explique le Dr Essex, une élection est complètement différente. Par exemple, en achetant un produit en ligne, on peut détecter un problème, comme un produit qui n'est pas livré. On peut en aviser la compagnie. À l'heure actuelle, dans le cadre d'une élection, il est impossible pour l'électeur d'avoir la preuve que son vote a été correctement comptabilisé. Même chose pour les banques, si on fait une comparaison avec les transactions en ligne dans les banques. La banque a accès à un ensemble d'informations sur le client. En principe, aucune information personnelle ne devrait être associée à un bulletin de vote. C'est le cas dans le cadre du vote électronique. Le simple fait d'avoir votre date de naissance et votre lieu de résidence, par exemple, peut permettre de vous identifier. Le docteur Alexander Essex a également souligné que les informations qui entourent le vote sont transmises à des serveurs. Selon lui, bien que les fournisseurs de services, qui sont en fait des compagnies privées, garantissent que tout bulletin de vote demeure secret, rien ne garantit à l'heure actuelle qu'elles ne revendront pas les données compilées sous forme de statistiques, comme le font par exemple les entreprises de télécommunications. Comme l'a souligné le Dr Essex, certaines juridictions en Ontario ont tenu des élections sans autres options que le vote électronique, ce qui laisse place à une certaine inquiétude.
I know that one of the things we're worried about down here in Ontario is whether or not this will cause a situation where a voter might say, I'm faced with a choice. I'm faced with a choice on one hand between revealing this private information to a for-profit company that, you know, we hope that they're not going to do it. You know, they're ostensibly not doing anything with it, but that's what I have to do. And on the other hand, if I want to prevent myself from having to reveal that information, I could just not vote.
Le docteur Alexander Essex souligne ici une inquiétude en Ontario. C'est que l'électeur fait face à un choix. Soit l'électeur prend le risque de peut-être révéler des informations personnelles à une compagnie à but lucratif en votant, ou il fait le choix de ne pas prendre ce risque et donc de ne pas voter. On rappelle que les TNO devenaient à l'automne 2019 la première administration publique canadienne à employer le vote électronique dans le cadre d'une élection législative. Aux dernières élections générales, 3,7% des électeurs ténois ont opté pour ce type de scrutin. Le vote électronique a également été employé ailleurs au Canada, à l'échelle municipale cette fois, notamment en Ontario et en Nouvelle-Écosse. L'Île-du-Prince-Édouard a également eu recours à cette méthode dans le cadre d'un référendum. Le GTNO a levé cette semaine l'état d'urgence territoriale qui était en place depuis le 24 mars. La première ministre Caroline Cochrane conserve tout de même, pour l'instant, le portefeuille du ministère des Affaires municipales et communautaires qu'elle avait pris en charge ce printemps dans le contexte de la pandémie. En prenant la responsabilité du ministère des Affaires municipales et communautaires, Caroline Cochrane avait notamment le pouvoir de faire appuyer la loi sur la gestion des urgences. Le GTNO indique ne jamais avoir eu recours au pouvoir prévu par cette loi depuis le début de la pandémie. On indique dans un communiqué de presse que le GTNO a pu gérer les risques en ayant uniquement recours au pouvoir prévu par la loi sur la santé publique. Le GTNO a déterminé qu'il dispose de suffisamment de pouvoir en vertu de la loi sur la santé publique pour maintenir les mesures sanitaires en place et les mettre en œuvre. Questionné par Radio Taïga, le bureau de la première ministre a répondu par courriel qu'aucune décision n'a été prise pour le moment en matière d'affectation des portefeuilles ministériels. La levée de l'état d'urgence territoriale ne change rien aux restrictions présentement imposées par la santé publique puisque l'état d'urgence sanitaire, lui, demeure en place. Celui-ci est établi en vertu de la loi sur la santé publique dont est responsable la ministre de la Santé et des Services sociaux, Diane Thom. Selon les dispositions actuelles de cette loi, l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, demeure responsable d'émettre les directives relatives aux mesures sanitaires. La première ministre a annoncé le 7 avril qu'elle était désormais responsable du portefeuille des affaires municipales et communautaires, qui était jusque-là sous la responsabilité de la ministre Polly China. La ministre China est actuellement ministre responsable du logement et responsable de l'itinérance. On vous en parlait la semaine dernière, un groupement de 5 associations représentant la majorité des entreprises privées des TNO réclame au gouvernement de collaborer vers un meilleur équilibre entre les restrictions de santé publique et une reprise sécuritaire de l'économie. Bien qu'il ne soit pas signataire de cette lettre, le Conseil de développement économique du Nunavut approuve les propos qui y sont partagés. J'en ai discuté cette semaine avec le directeur général, François Afan.
Comment est-ce que vous avez reçu cette lettre-là? Comment est-ce que, quel est votre point de vue sur ces requêtes-là de la part des 5 associations?
Tout d'abord, je voudrais préciser que le CDTNO serait une organisation apolitique, donc on ne prend pas de position qui pourrait être interprétée comme politique, mais néanmoins, sur un plan purement économique, la lettre qui a été produite par les 5 partenaires est tout à fait pertinente. Parce que, à cause du COVID, l'économie a vraiment été mise en arrêt, presque en arrêt total, ou plus ou moins, avec quelques compagnies. Donc, beaucoup de compagnies, il y a eu des pertes d'emplois, il y a des gens qui se retrouvent sans salaire, sans revenus, il y a des compagnies qui sont en train de perdre de l'argent. Donc, on devrait, autant que possible, quand la situation devient sécuritaire et qu'on peut se le permettre, relancer l'économie. Parce qu'il y a un grand pan de la société qui dépend du fonctionnement normal de l'économie. Parce qu'il faut savoir que l'économie des TNO n'est pas que les fonctionnaires. L'économie des TNO, c'est aussi les entreprises touristiques, c'est les commerces, c'est tout ce tissu privé qui fait aussi vivre l'économie et dont on a besoin. On ne peut pas se permettre de complètement les tuer et qu'ils disparaissent. Parce que sinon, où est-ce qu'on va faire nos achats? Où est-ce qu'on va se coiffer? Où est-ce que, qui va faire venir les touristes ici? Donc, cet aspect qui a été complètement mis en arrêt a besoin de redémarrer à tout le moins dans les conditions sécuritaires, aussi longtemps qu'ils peuvent respecter les conditions de sécurité qui sont émises par les autorités. Il n'y a pas de raison qu'on ne relance pas ce volet économique-là.
À l'heure actuelle, auriez-vous des exemples de mesures qui semblent être trop restrictives, telles qu'imposées dans le plan en 4 phases?
Exemple pratique, il y en a plusieurs, ça dépend. Par exemple, les restrictions au niveau des voyages. C'est vrai que, est-ce que pour les compagnies de touristiques, par exemple, agences touristiques, qui ne sont pas encore autorisées à recevoir du monde qui vient de l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, mais avec toutes les restrictions qui s'imposent, notamment les hôtels, les Airbnb d'office, personne ne viendrait ici comme touriste pour venir s'isoler 14 jours avant de commencer à faire sa tournée. Vous imaginez les coûts que cela implique. Il y a beaucoup d'autres services comme ça qui ne sont pas encore autorisés à ouvrir ou qui ouvrent à des capacités limitées qui impactent leur chiffre d'affaires et leur capacité à fonctionner.
Donc, il y aura matière à revoir les restrictions aux frontières.
Oui, tout à fait, parce que, entre autres, la première priorité, c'est vraiment protéger la population locale en évitant quelque infection que ce soit au COVID-19. Parce que les autorités sanitaires ont fait un très bon travail là-dessus. Les mesures qui avaient été mises en place à l'avance, bien anticipées, bien planifiées, le travail a été magnifique et on a préservé la communauté. Maintenant, il est temps que le gouvernement s'asseye avec les autorités, les partenaires du secteur économique privé pour dire quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place de commun accord, qui sont jugées sécuritaires, mais qui vous permettent de relancer vos activités d'une façon ou d'une autre, même de façon progressive. Parce que quand un train est à l'arrêt, il faut bien que le train redémarre. Et ça prend du temps, parce que le départ va être lent, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de départs. Je sais que le GTNO a toujours été ouvert. Le GTNO est toujours ouvert à la discussion. La lettre était juste pour rappeler que le statu quo et le secteur économique privé a besoin que les choses bougent et qu'elles bougent dans un sens qui permet, qui donne de l'espoir. Parce que vous savez, quand on est en entreprise, l'instabilité ou le fait qu'il n'y ait pas de perspective, il n'y ait pas d'avenir, une projection, affecte beaucoup les entrepreneurs, surtout leur mental. La force de l'entrepreneur, c'est le mental et le moral. De savoir qu'il peut se projeter, de savoir que c'est dans une situation difficile, il y a des possibilités pour lui de sortir. S'il est en arrêt, c'est jusqu'à quand. Cette certitude-là est la clé des affaires. Et dans ce cas, je sais que le GTO a toujours été un partenaire et ils vont continuer d'être un partenaire à l'écoute, parce que c'est dans l'intérêt de tous que l'économie redémarre et qu'elle soit productive.
C'était François Afan, directeur général du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. <musique> deux nouveaux appareils de dépistage de COVID-19 sont en cours d'installation au Nunavut. L'appareil baptisé BioFires est doté de panneaux permettant de tester 14 différents agents pathogènes qui causent des infections des voies respiratoires, dont la COVID-19. Selon l'administrateur en chef de la santé publique, le Dr Michael Patterson, une fois ces deux appareils installés et approuvés par Santé Canada, et en supposant que les cas de COVID-19 poursuivent leur décroissance dans les régions du sud fréquentées par les Nunavois, l'imposition d'une période d'isolement de 14 jours pour les résidents qui reviennent sur le territoire pourrait être reconsidérée. Deux appareils actuellement installés à Rankin Inlet et à Iqaluit, nommés Gene Expert, étaient censés être en mesure d'assurer le dépistage rapide de COVID-19 en cas d'éclosion au Nunavut. Mais une pénurie de cartouches à l'échelle mondiale empêche le territoire de s'y fier. Le Nunavut reçoit de 20 à 30 de ces cartouches par semaine, ce qui ne serait pas suffisant advenant une éclosion de COVID-19 au Nunavut. L'appareil BioFires est présentement en attente d'approbation par Santé Canada pour être installé dans les collectivités d'Iqaluit et de Rankin Inlet. Des travaux sont en cours à l'hôpital de Rankin Inlet pour pouvoir y installer un appareil. Y aura-t-il une saison 2020-2021 de hockey au TNO? Au nom de toutes les associations de joueurs du territoire, Hockey TNO rencontrera le 13 juillet l'administratrice en chef de la santé publique pour discuter d'un possible retour aux Jeux sécuritaires, et ce, dès l'automne. À l'heure actuelle, l'ouverture des patinoires aux joueurs de hockey n'est pas prévue, n'est prévue qu'en phase 4 du plan d'assouplissement des mesures sanitaires, c'est-à-dire lorsqu'un vaccin ou un traitement sera disponible. Si cette restriction demeure inchangée, la saison 2020-2021 sera vraisemblablement annulée. Comme l'explique le directeur général de Hockey TNO, Carl Colger, l'objectif de l'association n'est pas d'avoir droit à un début de saison conventionnel, mais bien de permettre aux joueurs des ligues de retourner sur la patinoire d'une façon ou d'une autre en octobre. Comme l'indique M. Colger, il est important de retenir qu'un retour au hockey pour Hockey TNO ne signifie pas nécessairement un retour à des compétitions de 5 contre 5.
We're going into next week's meeting with an open mind to find, you know, a solution that would allow us to return to the ice in 2020-2021 in some fashion. We're optimistic that we'll be playing hockey in some form this season.
Il ajoute que l'association se rend à cette rencontre avec l'esprit ouvert dans le but de trouver des solutions qui permettront de retourner sur la glace pour la saison 2020-2021 en travaillant avec la santé publique. La santé publique des TNO considère le hockey comme une activité à haut risque de transmission de COVID-19 en raison notamment des conditions froides et sèches des arénas qui favorisent la transmission du virus entre individus. Notons également que les visières ne sont pas considérées comme un équipement protecteur face à COVID-19 puisqu'elles risquent de ne pas rester en place durant le jeu.
Je sais, on peut parler à propos de le gouvernement territorial et fédéral et tous les problèmes là, mais si on peut peut-être avoir des suggestions pour le gouvernement municipal.
On entend ici la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, qui était en compagnie de 6 résidents francophones qui ont répondu à l'invitation le 8 juillet. Toutes les semaines jusqu'en septembre, la mairesse organise des repas-discussions le midi, durant lesquels les résidents sont invités à venir discuter de façon informelle de leurs idées et de leurs préoccupations entourant la vie à Yellowknife. Cette fois-ci, la rencontre était en français. Beaucoup de questions, évidemment, ont été soulevées entourant les restrictions de santé publique et la reprise progressive des activités de la municipalité. On a également parlé de l'avenir de la municipalité, notamment de l'importance aux yeux des participants à la discussion d'avoir un campus universitaire à Yellowknife, également davantage de logements sociaux, par exemple. Une franche discussion qui aura permis de tâter le pouls. Serena Jenna, une jeune résidente de 14 ans, s'est elle-même faite porte-parole de sa génération d'adolescents en déplorant le manque d'attrait pour les jeunes à Yellowknife. J'ai pu en discuter avec elle.
La génération Gen Z, on est vraiment des révolutionnaires, cette génération. Comme maintenant que le monde a réalisé qu'il y a des problèmes, c'est à nous de les réparer. Alors, c'est vraiment nous qui trouvons des solutions puis qui essayons de les faire, comme Greta Thunberg. Alors, et à Yellowknife, petite ville, 20 000 habitants, on s'ennuie, puis il y a pas vraiment de rien comme intéressant aux jeunes. Il y a des parcs, il y a une piscine. Oui, c'est une belle ville, mais pour cette génération, on est technologique, on est vraiment les jeunes de ville. C'est un peu poche ici. Alors, comme qu'on construit des universités, on s'ennuie quand même. On n'est pas sûr qu'ils comme vont vraiment rester ici juste pour des arbres puis des parcs. Alors.
La mairesse Rebecca Alty, pour sa part, a pris des notes tout au long de la discussion. Au terme de la séance, j'ai obtenu ses impressions.
Je vous voyais prendre des notes. Là. Qu'est-ce que vous avez retenu, entre autres?
Il y avait beaucoup de suggestions à propos de la récréation et comment on peut utiliser la nature et tout que la ville offre, plus au lieu de le grand édifice infrastructure. Donc, il y avait des bonnes idées comme de faire une mural sur le trottoir avec le chalk. Et, ça serait intéressant à voir comment on peut faire ça ou comment on peut améliorer des patinoires à l'extérieur. Donc, oui, beaucoup de suggestions à propos de la récréation.
On a retenu, entre autres, les commentaires d'une jeune résidente de 14 ans qui avait beaucoup de choses à dire sur la vie à Yellowknife pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Oui, c'est quelque chose que j'entends même quand j'étais une jeune ici à Yellowknife. C'est toujours comme, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et c'est difficile parce qu'on a beaucoup de choses pour les gens qui sont dans les sports. Donc, si tu es dans un programme de hockey ou soccer, c'est comme ta vie est remplie. Mais si tu n'es pas dans les sports, c'est quoi qu'on peut faire? Donc, d'entendre de les jeunes ce qu'ils veulent faire, je pense que c'est important. Une chose que j'entends beaucoup, c'est un deuxième parc de skateboard. Donc, on verra si on peut trouver une autre place pour ça.
La mairesse Rebecca Alty a mentionné qu'une deuxième discussion repas en plein air en français pourrait avoir lieu au courant du mois d'août. Sinon, l'ensemble des résidents sont invités tous les mardis de midi à 13h à la place Sombaké pour des discussions en anglais. C'était vos nouvelles territoires d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.